Je ne veux pas accaparer le micro, j'ai déjà beaucoup parlé, je ne vais pas être long. Je veux simplement dire combien certaines des remarques de Léon Ashkenazy m'ont paru très importantes, même si ce sont des sujets qui ne sont pas tous les jours très familiers. Tout d'abord sur la première question, celle de la traduction de la Septante et des 70 anciens, pour faire remarquer, comme lui, l'humour du Talmud, qui repère 22 erreurs, je crois que c'est 22, et alors curieusement, ils les ont faites ensemble et sans s'en rendre compte en même temps. Alors là, il y a un humour extrême, évidemment, pour montrer que la légende ne peut pas tenir. Alors, cela nous ramène au fond de la question de la Septante. Je pense que c'est une gageure qu'il fallait tenter. C'est-à-dire, mais je vais revenir sur la fin, le problème de la langue de l'autre, c'est-à-dire de la langue d'Égoïm ou de la langue de la civilisation, en l'occurrence alexandrine, donc de la dissémination avec tous ses périls, mais en tant qu'elle est la langue qui a emprise sur l'existence, sur la littérature, sur l'expérience, c'est une tentative que l'hébreu ne peut pas ne pas faire. Mais en même temps, en prenant conscience des risques considérables de l'entreprise, donc il doit le faire, mais en même temps, il y a des erreurs. Ça ne donne pas une traduction impeccable. Et en plus, ces 22 erreurs ne sont pas des erreurs minimes. Donc, même si elles sont peu nombreuses, même si la tentative de la traduction doit se faire, le problème de la traduction est là posé tout entier dans ce petit fait central. Mais je vais revenir à la fin sur ce problème du grec et de la traduction. Je voudrais dire un mot sur le problème central soulevé par Ben Ashkenazy concernant le fait que, pour le judaïsme, c'est l'hébreu qui a permis que la révélation soit possible au Sinaï. Et donc, il fallait que l'identité hébraïque soit posée et précède la révélation elle-même. Je n'ai pas du tout contesté cette possibilité même, et je ne suis pas sûr qu'il y ait opposition radicale avec ce que j'ai dit quand j'ai donné l'autre thèse, à savoir que c'est la révélation qui a donné à l'hébreu ses lettres de noblesse, et qui finalement pose définitivement l'identité hébraïque dans son être. On pourrait renvoyer la question, quand commence la prophétie ? Est-ce que la prophétie commence déjà dès Abraham ? Il y a un sens où c'est vrai. Il y a aussi un sens où la prophétie ne prend son extension et son ampleur que quand elle se confronte au fait ou de la philosophie ou de la pensée extérieure et qu'elle se pose donc dans la différence. Moi, je dirais simplement ceci. Peut-être en effet que ce débat n'est pas un débat ultime. Il y a une approche juive qui considère l'historicité juive comme fondamentale, alors que l'autre approche, que j'appellerais ici également juive moi-même, et plus pharisienne, considère que ce qui est fondamental, c'est que la Torah est mina shamaim, et qu'il était absolument nécessaire que la Torah soit garantie par son caractère hébraïque pour qu'elle existe comme Torah. Et que c'est donc le second aspect doit être également souligné. Sinon, on laisse le don de la Torah, le matan Torah, le don de la loi, dans l'indéfini de l'exigence éthique, sans lui donner ses critères. Alors pourquoi ça ne serait pas Kant ? Pourquoi ça ne serait pas l'impératif catégorique qui finalement aurait été donné au Sinaï ? Il faut donc aussi dire que le don de la Torah est donné dans la langue hébraïque, ce qui ne fait que renvoyer le critère de ce qu'est la langue hébraïque à quelque chose d'encore plus profond que tout ce qu'on peut dire. Je crois qu'il est plus profond donc ou que l'ethnicité ou que le caractère linguistique de la yeshiva d'Eber, et qui est que c'est une langue autre que toutes les langues. Il faut bien le dire, c'est-à-dire que même quand on dit Abraham à Ivry, en définitive le commentaire dit il est à Ivry parce qu'il est d'au-delà du fleuve, parce qu'il est d'ailleurs, parce qu'il est autre. Et c'est ce critère ultime que j'ai voulu souligner, mais ce n'est pas pour diminuer l'historicité hébraïque qui me semble difficile à évacuer. Je viens donc rapidement à la question du privilège du grec. Pourquoi le grec a un privilège sur toutes les autres langues ? Léon Ashkenazy vient de nous le dire. Le grec est comme une sorte de passage inéluctable qui a sa spécificité propre dans l'ordre de la beauté ou dans l'ordre de plus que la beauté, puisque cette beauté vient au service des tentes de Shem, c'est-à-dire vient habiter les tentes de Shem. Elle est révélée à elle-même comme beauté, non pas parce qu'elle est le grec, mais parce que le grec, quand il vient dans les tentes de Shem, révèle que la révélation, c'est aussi la beauté du monde. Enfin, je ne sais pas si je suis clair, mais qu'il y a une dimension de la compréhension de la révélation qui se donne dans la portée cosmique de cette révélation quand elle touche le monde et qu'elle lui donne sa beauté. Alors, moi, je poserai simplement la question ultime, qui serait celle-ci, et je termine là. Est-ce que vous avez perçu ce que je voulais dire, excusez-moi de l'impertinence. en soulignant par là que le grec est le passage obligé de l'interprétation et de l'herméneutique. C'est-à-dire, même s'il y a une priorité de l'araméen pour interpréter l'écriture qui est hébraïque, il reste que le grec joue un rôle essentiel parce que c'est la langue de la philosophie et c'est la langue de la littérature, c'est finalement la langue de la vie du monde, permettez-moi de dire les choses ainsi, et comme je crois essayer de le dire Lévinas, parfois à contre-courant contre certaines tendances qui ne vont pas facilement dans ce sens. Le grec n'est donc pas simplement une occasion d'interprétation, mais hélas, il est quelque chose de plus rigoureux que cela. Il est la nécessité même pour l'exégèse d'un passage par lui pour revenir au vrai sens du Midrash, au Pshat, etc.
Vous avez dit hélas. Bien, écoutez, je crois que vous avez posé le problème fondamental. Je me demande si nous n'avons pas le devoir, puisque nous nous sommes entendus et compris, de penser pour l'année prochaine, dans pas trop longtemps, à une étude de fond, pas en séminaire, mais peut-être en rencontre sur cette question. J'aurais beaucoup de choses à dire. Vous avez cité Lévinas, et donc nous avons là un champ énorme d'expérience du problème, d'expérimentation du problème. Mais je me demanderai à une seule remarque. Je crois que nous avons eu à nous confronter à quatre civilisations. C'était Babel, c'était la civilisation chaldéenne, et l'hébreu de l'exil en Chaldée, c'était l'araméen. Ensuite, ça a été la Perse. Ensuite, ça a été la Grèce. Ensuite, ça a été Rome. Et les sources que nous avons citées par rapport au privilège du grec viennent du fait que ces sources viennent du temps grec, de l'époque grecque, de notre nation, quatre grands empires, les Malchouyot, donc quatre grandes civilisations que nous avons traversées. Je crois d'ailleurs que la rupture sur beaucoup de points entre le judaïsme et le christianisme, dans ce qu'elle s'est produite, je devrais dire entre christianisme et judaïsme, puisque c'est le christianisme qui s'est séparé du judaïsme, et pas l'inverse, s'est produit peut-être sur ce fait. C'est que la différence entre l'homme de l'évangile et l'homme du Talmud, c'est qu'il y a eu deux diasporas. Je schématise beaucoup, mais c'est un problème important. L'une qui restait fidèle à son véhicule hébraïque, c'était la diaspora talmudique, les juifs, l'autre qui a changé de véhicule.
Oui, d'accord, mais aujourd'hui.
Attendez, aujourd'hui, justement, le véhicule hébraïque, il faudrait relire Saint Paul sur ce qui se passe aujourd'hui. C'est le véhicule hébraïque qui se révèle comme étant le véhicule de ressourcement. Et l'autre embranchement de diasporique à ce niveau, qui a opté pour les catégories gréco-romaines en place des catégories hébraïques, tout en se réclamant des catégories hébraïques, d'où le drame intérieur aux traducteurs chrétiens. Et considérable. Vous l'avez d'ailleurs indiqué. Et ce que nous disons là du grec, nous allons continuer à le dire, et je reviendrai à Lévinas, mais nous pouvons le dire du chaldéen, nous pouvons le dire du perse, nous pouvons le dire du latin. Et je me demande à quelle mesure la source que je vous ai citée ne privilégierait pas le latin comme langue de traduction de la Bible plutôt que le grec. Et que la catastrophe de septembre, c'est peut-être que ça a été d'abord traduit en grec plutôt qu'en latin. Et ce serait un débat.
Oui, tu peux expliquer cette.
Oui. Et le grec et le latin, c'est ensemble le gréco-romain et donc le véhicule culturel du christianisme naissant. Alors que la diaspora juive, elle est restée fidèle à son identité hébraïque à travers la ramène du Talmud, c'est-à-dire les catégories de la civilisation perse. C'est ça qu'il faut bien comprendre. Et justement, l'ampleur du débat, je crois que ça vaudrait la peine d'y réfléchir. Mais j'y arrive. J'ai signalé tout à l'heure dans une phrase, et c'est peut-être là le problème que nous pose l'œuvre de Lévinas. C'est que les sources que nous avons citées privilégient la langue grecque et non pas la pensée grecque. Alors la difficulté et le piège, c'est est-ce que la langue grecque peut être utilisée sans la pensée qu'elle implique ? Et est-ce que traduisant en grec, on ne va pas risquer de penser en grec. Lévinas, non seulement l'accepte, mais le demande et l'impose. Et justement, là-dessus, il y aura certainement, les historiens de l'avenir parleront d'un éclatement de l'Alexandrie juive de Paris ou de Chicago, je ne sais pas de ce que vous voulez, entre, de nouveau, ceux qui accepteront de privilégier le grec, non seulement comme véhicule de traduction, mais inévitablement comme véhicule de pensée, et donc christianiseront, et ceux qui l'auront refusé. Je dis une chose énorme, mais j'en suis tellement convaincu que ça me paraît simple. Je suis pas vraiment expliqué. Mais je veux dire qu'il en est dit, pour revenir à Alexandrie, que je me demande si l'énorme travail de traduction qui se produit actuellement ne va finalement plus servir à une revivification du christianisme que du judaïsme.
Oui, je voudrais dire juste une chose, parce que ce sont des choses énormes. Je voudrais simplement dire que le christianisme se définit, s'exprime dans un phénomène de traduction. Il est dans son origine hébraïque, à la fois par la personne de Jésus, des apôtres, il s'est exprimé dans la langue hébraïque, et pourtant le Nouveau Testament est en grec. Donc il se donne dans un phénomène de traduction. Mais vous ne pouvez pas prendre la définition du christianisme dans le mouvement de sa traduction. La traduction n'est que la condition d'atteinte des goïms, des nations. Mais quand il, aujourd'hui, arrivé dans les nations et répandu comme il est dans les nations, avec le phénomène de pesanteur et d'assimilation aux nations et de diasporisation du christianisme dans les nations qui est conséquent, il ne peut se retrouver dans son identité que dans la restauration de son identité hébraïque.
Très bien.
D'ailleurs, voilà.
Très bien. Et j'allais dire que, je ne dirais pas, parce que ça ne se dit pas, que vous êtes un cas particulier, mais ce que je veux dire,
vous aussi,
c'est que nous sommes privilégiés de vous avoir, parce qu'il s'agit du cas exceptionnel, justement, de ce ressourcement hébraïque qui re-authentifie le christianisme comme tel. Et alors, je pense que c'est de la dynamique. Et parce que, finalement, ça a pris 2000 ans pour ressusciter. Je pense que c'est de la dynamite en milieu chrétien. Et est-ce que se réhébraïsant, le christianisme ne va pas, ce que je souhaite, peut-être vous aussi, se rejudaïser? Et de même que, est-ce qu'en se traduisant, le judaïsme ne va pas se helléniser? D'où le problème posé, non pas par Lévinas lui-même, mais par la tendance, et il la regrette, que prennent beaucoup d'imitateurs non compétents, si j'ose dire. Voilà encore une autre bombe.
Pour permettre de continuer ou de commencer le débat, je voudrais profiter de ce que j'ai la parole pour poser deux questions. L'une qui se pose essentiellement à la tradition juive et l'autre qui se pose davantage, me semble-t-il, à la tradition chrétienne. Je veux dire le statut particulier de l'araméen, d'une part, dans la tradition juive. Et par ailleurs, à partir de ce qui a été cité tout à l'heure, aussi bien par toi Bernard que par toi Rav Yehuda, de ce qui concerne le grec, le traité de Megillah. Bon, en ce qui concerne le problème de l'araméen, nous avons en effet un texte dans la Gemara de Shabbat 12b qui est tout à fait difficile, dans lequel on dit que les anges, tout celui qui demande ses besoins en langue araméenne, les anges ne se mettent pas à sa disposition parce que les anges de service ne connaissent pas, Makirin, la langue araméenne. Et c'est donc là une question qui semble difficile. Peut-être que si l'on prend en considération le Midrash Agadol qui distingue 72 langues de base, sans compter les idiomes, et que donc les 72 langues, c'est 70 langues des nations du monde, plus l'hébreu et l'araméen, en tout cas, c'est une question apparemment difficile. Or, ce qui est tout à fait curieux, c'est que c'est le Rabbi Bachia ben Asher ben Chalava, les Sparadim appellent Rabbeinu Bechaye, qui dans son commentaire sur la Torah, écrit en 1291, justement à propos de la tour de Babel, à propos du verset 9 du chapitre 11, pose cette question et il dit, puisqu'il y a eu création à ce moment-là des différentes langues, n'est-ce pas, les 70 langues, comment est-ce qu'il cite cette Gemara de Shabbat? Et il pose la question, comment peut-on dire cela? Nous avons par ailleurs des textes dont je vous fais grâce, qui montrent qu'apparemment, c'est un ange qui aurait appris à Joseph les 70 langues, etc. etc. Et il explique la façon suivante. Ils ne connaissent pas la langue araméenne pour ce qui est dans le sens de s'occuper de celui qui demande ses besoins, celui qui prie, qui demande ses besoins au maître du monde. Car évidemment, dit-il, ils connaissent. Mais seulement, il ne s'occupe pas de lui dans une autre langue, parce qu'il demande la langue de sainteté. Et peut-être pourrait-on à ce moment-là comprendre que Makir, il faudrait traduire dans le sens de « ils ne connaissent pas », en sens de « reconnaissent pas ». Ils ne reconnaissent pas l'hébreu, ils ne reconnaissent pas l'araméen, en tant que langue de demande pour l'hébreu ou le juif descendant de l'hébreu, pour qui la langue, le chlaco de langue de sainteté, devrait être la langue de communication pour l'hébreu. Enfin, je laisserai le soin à l'Université de répondre. La deuxième question que j'ai posée simultanément s'adresse plutôt à Bernard Dupuis, c'est à propos de ce problème de la traduction en grec. Premièrement, comme tu l'as dit, les évangiles sont écrits en grec. Et également, les évangiles, la version officielle de l'Église catholique des évangiles, est-ce que c'est la version de la Vulgate en latin ou en grec ?
Non, c'est le grec.
C'est bien le grec. Les évangiles, c'est la version grecque qui représente, pour l'Église catholique, la version autorisée. De plus, pour l'Église orthodoxe, c'est même, je crois, l'Ancien Testament également, qui est en grec.
Oui.
Alors, à partir du moment où, effectivement, on connaît cette explication qu'il y a quatre langues de révélation, qui sont l'hébreu, l'araméen, le latin et l'arabe, donc le Coran, est légitimé par la tradition juive, de même que...
L'arabe, pas le Coran.
Non. Oui. Mais enfin, la possibilité d'écrire un livre en arabe...
De traduire un livre en arabe.
Si tu veux. Mais en ce qui concerne le grec, ça serait donc considéré comme une langue de non-révélation. Et je voudrais reprendre ce que tu as dit en disant qu'il y a deux... Il y a deux conceptions dans la tradition juive. C'est qu'ils considèrent que c'était une catastrophe, la traduction en grec. Et puisque tu as cité, à partir de Lévinas, de la Gemara de Megillah 9b, que la beauté de Japhet repose dans les temples de Shem, eh bien, Léon Skazine l'a cité également, n'est-ce pas ? Il s'agit donc de la langue grecque. Je voulais signaler que ce problème me semble avoir été résolu par le Maharal, dans le Ner Mitzvah, dont je t'avais passé un exemplaire il y a déjà pas mal d'années, je ne sais pas si tu as le temps de le lire. Ner Mitzvah qui est apparu en 1600. Et dans lequel le Maharal pose la question suivante, que tout à l'heure tu as évoquée d'ailleurs, hors micro si je puis dire, du Midrash de Echorabah 2.13, sur un verset des Lamentations, si on te dit, si quelqu'un te dit, il y a de la chokhma, de la sagesse des nations, crois. Parce que nous avons un verset qui dit effectivement dans Obadiah qu'il y a de la sagesse chez Esaü, etc. Si on te dit qu'il y a de la Torah chez les nations du monde, ne crois pas. Et le Maharal cite à ce moment-là cette Megillah, cet extrait de Megillah en disant que la beauté de Japhet repose dans les temps de Shem. Il dit pourquoi ? Qu'est-ce que cela veut dire ? Ce que la Gemara a expliqué, Yofiuso chez Yefes, Yehev Oroleshem, que la beauté, Japhet, n'est-ce pas, c'est beau, repose dans les temps de Shem. Et je cite directement ce que dit le Maharal. Donc, page 12 du Ner Mitzvah. Pour ainsi dire que la beauté des enfants de Japhet, car Lachon Yavani, Shehe Hayofe Yoser, car c'est la langue grecque qui est la belle langue par excellence. Et donc, que la Torah soit dans les temples de Shem, et qu'il est donc permis que la Torah soit chez eux, parce que Yesh Lohem Chochma, Yoter, Misha Arumos, parce qu'ils ont une sagesse supérieure à tout le peuple. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose chez les Grecs qui leur permet d'avoir une mini prétention à la Torah, parce que c'est la sagesse humaine la plus grande de toutes les sagesses humaines. Et le Maharal ajoute à ce moment-là, c'est pour la même raison qu'ils ont voulu détruire Israël, parce qu'ils ne supportaient pas qu'il y ait une sagesse divine. Et comme dit le Maharal, qui est un gibor miskané et l'autre gibor chez Komoso. Car un fort ne jalouse que quelqu'un qui est fort comme lui. C'est-à-dire que, bien sûr, traduire en grec, les Grecs ont droit à la prétention que la Torah soit dans leur langue, parce que ce sont la langue grecque, c'est la langue la plus belle. Or, cette langue grecque est reliée par le Maharal à la chokhma, donc je dirais à la philosophie, à la sagesse, et en même temps, le danger, c'est que de ce fait, de se sentir possesseur de la plus grande sagesse humaine, on va donc s'opposer à la Torah en tant que sagesse divine. Et donc, à ce moment-là, il me semble-t-il, les deux sont liés. Donc, les deux questions que je posais à la fois pour le judaïsme et pour le christianisme. L'araméen pour le judaïsme.
J'ai la tentation d'inverser les questions.
Enfin, je vais très rapidement. Comme tout bon juif.
Très rapidement, je pense à l'araméen, parce qu'il faut quand même donner quelques peu la parole à la salle. Et c'est ceci. L'expression du Midrash que tu as cité, c'est Malaché Acharé, les anges du service. c'est-à-dire les volontés de Dieu proposées au fonctionnement du monde, de l'universel du monde. Et puis il y a un lien direct entre Dieu et Israël, une sorte de langage familial entre Dieu et Israël, qui est l'hébreu tel qu'il est parlé dans la famille des Hébreux. L'araméen, au temps de l'araméen, le yiddish, au temps du yiddish, le jdor, le ladino, au temps du ladino. Ça, c'est un langage secret entre Dieu et nous. Les anges n'y comprennent rien. Les anges sont préposés au fonctionnement du monde. Et puis il y a le lien direct qui est la yiddishkeit, pour dire ça en yiddish. Et la yiddishkeit, ça ne veut pas dire la culture yiddish, ça veut dire la culture juive en yiddish. Okay. Tzalehot, en judéo-arabe, la chose de juive, la juiverie.
On n'a pas le dire.
En ladino, je ne sais pas comment ça se dit. Quelqu'un pourrait peut-être nous le dire. Je crois que là il y a aussi l'essentiel de ce que le Maharal explique à ce sujet. Eh bien, les anges peuvent être les médiateurs entre le Dieu unique et tous les phénomènes du monde, en hébreu, la langue universelle, dans les langues de chaque nation, à travers les médiations de chaque nation. Mais le lien direct, spécifique, intime entre Dieu et Israël, ça, ils n'y comprennent rien, même pas les anges. C'est-à-dire, par rapport à nous, ils sont l'être ange. Mais par rapport à eux, nous sommes très étranges.
Bon, alors je prends l'autre volet. Il est bien clair que le grec n'est pas une langue de révélation, pas plus pour nous que pour vous. Le grec est pour nous langue de traduction, et ça le problème, nous l'avons assez posé ce soir, mais il n'est pas langue de révélation. Il n'y a pas de Torah liée au grec, il n'y a pas de lien du grec à une révélation de Torah. La révélation de la Torah, elle est liée à l'hébreu, et j'ai essayé assez laborieusement de le montrer. Donc ça, il est bien clair. Alors la question que le Maharal de Prague soulève dans l'Ener Mitzvah est en effet une question très dangereuse et spécieuse. Je lui rends grâce de pousser les questions jusque-là, mais elle revient à dire, et alors ça rejoint la question de savoir si l'adhésion à la langue ne devient pas une question très, 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 très grave quand c'est aussi une adhésion à la sagesse véhiculée par l'anglais. Le problème, c'est qu'il y a, dès qu'on aborde le problème de la, non seulement de la prophétie, mais de la chorma, c'est-à-dire de la sagesse, c'est que les sagesses sont communicantes. Nous savons très bien que dans la Bible, la chorma hébraïque, qui est dans les Ketubim, n'aurait pas pu s'exprimer sans une certaine cohabitation avec une chorma ambiante. Alors là, le problème en général exclu des confrontations à l'intérieur de la sagesse revient. Alors on se demande si le grec est utilisé comme la médiation nécessaire pour une interprétation hermétique qui va au fond des choses, c'est-à-dire des comportements humains, c'est-à-dire des sagesses. Si le grec est un médium nécessaire pour que l'hébreu porte son fruit jusque dans l'histoire du monde à ce point-là, alors vient la question posée par le Maharal, qui est de dire, est-ce qu'il fallait justement que la sagesse grecque soit assez élevée pour pouvoir être l'avatar ou l'expression de la sagesse hébraïque? Alors là, je dis une question dangereuse, à laquelle je ne saurais pas répondre, puisque lui-même l'a soulevée, c'est que c'est une question, qui viendrait alors au terme, à l'autre extrémité, à partir du moment où les rencontres se font, elles ne sont plus des exclusives et des différences, mais sont au contraire des partages d'existence qui, tels qu'il en existe dans le monde. Ça se rencontre, le juif et le non-juif, dans l'existence. Il y a même des choses qui sont tout à fait communes, si on veut bien y regarder de près. Bon, à partir du moment où on arrive là, est-ce qu'il y aurait une sorte d'accueil d'une sagesse grecque qui retrouverait sa grandeur à partir du moment où elle est ratifiée, reconnue par la sagesse hébraïque. Ben, j'en sais rien, pourquoi non, pas, mais c'est une question dangereuse, je dis. Bon, voilà.
Non, je dirais un mot différent, pas reconnu, ratifié, cachérisé. C'est-à-dire passer à l'eau et au sel.
Comment on ne sait pas faire ça.
C'est le vrai problème.
Bon, bien, maintenant vous avez la parole pour poser des questions. S'il vous plaît.
Une affirmation, une question. Une affirmation, je veux dire, l'hébreu n'est jamais été mort. Par exemple, même en Égypte, quand les peuples hébreux étaient esclaves pendant des centaines d'années, on voit que les mélodotes hébriotes, qui s'appelait Shifrat, Tepoa, et on dit mélodotes à hébriotes, et là-bas, c'est qu'ils sont à hébris. Ils ont fait apprendre l'hébreu à les enfants. Ça veut dire, elle n'était jamais la langue d'hébreu, jamais elle était cassée, jamais. Ça veut dire, elle était toujours utilisée des groupes, ça veut dire, le peuple hébreu, toujours elle était, et jamais elle s'est arrêtée. C'est-à-dire, c'est quelque chose de fondamental à juif, c'est toujours parler d'hébreu. même qu'on est esclave ou même qu'il est... Ça, c'est une affirmation. Et la question, traduire quelque chose d'hébreu en n'importe quelle langue, jamais on peut le traduire complètement. C'est-à-dire toujours qu'on va passer à côté. Parce qu'en hébreu, les lettres, on joue avec. On les modifie. On comprend de chaque lettre, il y a plusieurs sens. Et si on veut traduire, on peut traduire seulement une sonde de tous les autres sens. Jamais on pourra faire une traduction complète.
Oui, mais je ne vous contredirai pas. C'est tout le problème des traductions, et on peut dire comme vous que toutes les traductions sont impossibles. Mais, pour la Torah, nous n'avons plus le droit de dire cela. Elle doit être traduite. Et c'est à ce moment-là que le problème de la traduction de l'hébreu n'est pas le même que celui de la traduction de la Torah. C'est un autre problème, c'est un problème plus radical que celui de la traduction d'une langue dans une autre. Alors, vous avez bien raison de dire que les problèmes de traduction, surtout dans ce cas, de l'hébreu dans une autre langue, sont des problèmes quasiment insurmontables. Mais le problème que nous avons posé est autre que celui-là. C'est de dire que, à partir du moment où on confronte quelque chose qui s'appelle la révélation ou l'identité hébraïque avec l'existence quotidienne, avec les problèmes que soulève l'existence quotidienne, et il faut bien que cette confrontation se fasse, au risque sans ça de confiner la Torah à la renacolèche et de ne pas savoir ce qu'elle dit. Si nous confrontons cela, il faut passer par l'interprétation. Et l'interprétation, c'est la question que nous avons posée. Comment pourrait-elle se faire si elle ne se fait pas jusque dans la confrontation avec la langue de la civilisation, c'est-à-dire la langue des goïms, c'est-à-dire le grec, finalement, dans le sens où nous l'avons dit. Alors, je ne conteste pas les problèmes techniques que vous avez soulevés. À ce niveau-là, ils sont universels, ils sont vrais. Mais le problème que nous posons, c'est une exigence interne à la Torah d'être traduite et qui fait que dans l'histoire, ce problème se pose. Sinon, le juif est condamné à vivre dans sa différence, malheureux, j'allais presque dire, s'il ne peut pas vivre sa judaïté dans une existence qui est l'existence quotidienne. Je me suis peut-être pas bien expliqué, je voudrais simplement redire cela. Ce que vous avez...
Oui, monsieur.
Oui, j'aimerais bien savoir le mot chrétien, donc sa signification, son origine.
Je revienne là. Oui. J'ai dit qu'en langage originel, c'est-à-dire hébraïque, chrétien, si vous voulez, cette réalité que nous appelons les chrétiens, ça dit notre. Bon, c'est pas la peine que je commente, encore que cela, on peut se demander d'où ça vient, ça veut sûrement pas dire de Nazareth, ça veut probablement, vient d'une autre origine qui veut dire les fidèles d'une voix, sur la racine, Nesser, ou Natsar, etc. Bon, ça, c'est déjà un premier problème. Alors vous posez le problème du langage grec pour parler des chrétiens. C'est à Antioche, c'est dit dans le livre des Actes des Apôtres, qu'ils ont été appelés pour la première fois d'un nom, qui était probablement un nom dépréciatif, un sobriquet, à savoir Christianoï, ou Christ. C'est-à-dire chrétien, qui est la traduction en grec, à partir du mot Christos, du mot qui veut dire en hébreu Meshirin, c'est-à-dire oint, des oints. Ou alors Meshirin au sens messianique, ce qui est la même chose que dire. Voilà. Alors, ce que je dis, simplement je dis par mode en passant, c'est que si vous allez dans la rue demander aux chrétiens ce que veut dire chrétien, il n'y a pas beaucoup de chances que vous les entendiez donner cette explication. Pourquoi ? Parce que c'est l'émergence dans la langue courante, dans la langue grecque, de quelque chose qui n'est pas normalement compréhensible. Qu'est-ce que c'est que ça, un oint ? Expliquez-moi bien ça si vous ne connaissez pas la Bible. Par conséquent, un membre des nations ne comprend pas ce mot-là. Voilà ce que je voulais dire. Vous m'avez suivi, hein ? Ceci dit, c'est pourtant très important, parce que c'est bien ça qu'il est quand même. Mais à partir du moment où il abandonne son langage à la langue courante, à cause de sa dissémination, perd ce sens et perd donc le contenu du sens qui est véhiculé par le mot. Je vous laisse à la vérification dans le concret.
Monsieur ?
Pardon, une question, c'était une remarque. Il y a eu une époque de l'humanité où le trilinguisme était très à la mode, c'est la Renaissance,
oui.
Vous aviez la Bible polyglotte d'Alcala, vous aviez le futur collège de France qui s'appelait la Noble Trilingue Académie, et vous avez les conseils de Gargantua à son fils qui lui demande d'apprendre le grec, le latin et l'hébreu. Il semble que c'est une époque assez privilégiée où le conflit de ces trois langues est moins aigu.
Je crois que ce sont les origines du Collège de France, c'est bien.
Oui,
il y avait un péché originel.
Une question.
Oui, vous avez dit la Bible, la Torah doit être traduite, et je crois savoir que les membres du Sanhédrin apprenaient chacun une langue étrangère pour connaître la civilisation de cet étranger. Je retourne à la question. Pourquoi les étrangers n'apprennent-ils pas la Torah ? Pour comprendre.
Ah, moi, je suis bien d'accord avec vous, mais il faut du temps.